Bon, ben nous allons continuer notre réflexion de cet après-midi qui sera en deux temps. Nous aurons d'abord successivement les exposés de Roger Guenry et de Claude Henry. Après une courte discussion portant sur les deux exposés, et nous aurons directement, je leur demanderai de me rejoindre ici sur l'estrade, une table ronde de conclusion entre les différents intervenants de la journée. Donc, nous commençons, c'est Roger Guenry qui fait le premier exposé sur le thème « Gouvernance, marché, mondialisation ». Roger, la parole est à toi.
Donc, un bref commentaire sur le titre. Il y a le mot « gouvernance ». C'est un anglicisme, mais dit le Robert, un ancien mot français, avec une définition étrange, « bailliage de l'Artois et de la Flandre ». Donc, c'est aujourd'hui un mot synonyme de « gouvernement », mais dont la connotation est différente. Le gouvernement évoque plutôt le pilotage des États-nations. La gouvernance évoque le gouvernement de l'entreprise, si l'on veut, ou... C'est mon sujet ce soir, les formes de coopération internationale qui dessinent une alternative à un gouvernement mondial qui n'existe pas pour l'instant. Deuxième partie de mon titre, c'est que le marché est aujourd'hui mondialisé. Ce marché mondialisé est la toile de fond de la vie économique, mais aussi de la vie sociale de ce début du XXIe siècle. La mondialisation, en effet, n'est pas seulement celle des échanges, celle de l'information, celle des cultures. C'est donc, aurait dit Marcel Mauss, un fait social total. Mon premier avertissement découle de cette observation. Si un économiste peut légitimement parler du marché mondialisé, il n'a évidemment aucun monopole sur le thème de la gouvernance, une question qui est loin d'être strictement économique, qui appelle des regards croisés, comme le regard politique qu'a porté ce matin Pierre Rosanvallon, et, par exemple, des regards juridiques, philosophiques, sociologiques, etc. Donc, conscient des risques à s'aventurer hors de son domaine strict de compétences, je vais essayer de les limiter en essayant de me restreindre au problème de la gouvernance économique du marché mondialisé. Vaste sujet, malgré tout. Un mot d'abord sur la mondialisation économique. Alors, il s'agit non pas de la décrire en détail, mais d'esquisser ce qui est, au fond, l'arrière-plan de la communication. Et à cet égard, sans doute faut-il rappeler que la mondialisation des échanges à laquelle nous assistons n'est pas une première historique. On fait dater de l'essor de la première mondialisation, la mondialisation du XIXe siècle, de l'abrogation de la loi sur la céréale en 1846 en Angleterre. La mondialisation qui va se développer prend appui sur le fantastique développement des transports au cours de siècles, et en particulier au cours de sa seconde partie, en matière de canaux, de chemins de fer, de marines à vapeur. Elle a mis en communication les marchés de biens, et en particulier les marchés des produits agricoles, au sein d'un espace que des historiens économistes, Jeffrey Williamson et John O'Rourke, appellent l'économie atlantique, et en fait qui recouvre approximativement l'actuelle OCDE. Les écarts tarifaires ont été réduits parfois spectaculairement. Le prix du blé était à peu près le même à Odessa, à Liverpool, à la fin du siècle. Et en même temps, les marchés financiers étaient, du moins si on juge l'intégration sur la base de ratios statistiques standards, plus intégrés à la fin du XIXe siècle qu'ils ne le seront un siècle plus tard. Il ne s'agit pas de mettre en regard et de comparer notre mondialisation, que j'appellerais la seconde mondialisation, à cette première mondialisation. Dénomination contestable, d'ailleurs, pour la première mondialisation, elle est contestable dans l'histoire longue, mais à laquelle je vais me tenir. On peut noter cependant que Ces deux épisodes de mondialisation ont des points communs. Ils reposent l'un et l'autre sur la conjonction de l'abaissement des coûts de transport et de l'érosion des protections tarifaires. C'est sans doute le second facteur, le démantèlement des tarifs douaniers, grignoté par la multiplication des accords dans le cadre du GATT, General Agreement Trade on Tariff, qui domine aujourd'hui le premier, qui paraissait plus décisif lors de la première mondialisation. Mais bien entendu, dans sa forme, la mondialisation dont nous sommes partie prenante, à laquelle nous assistons, est à main de gré originale. La nature des biens échangés a profondément changé. Il ne s'agit plus de produits agricoles essentiellement, de produits industriels, de services. Le processus de libéralisation financière, cette fois appuyé de façon essentielle sur le développement de la communication. Enfin, la place croissante qui prennent les pays émergents, et bien entendu l'Inde, la Chine, l'Amérique latine, est une donnée inédite. Il n'est pas non plus dans mon propos de faire des pronostics sur l'avenir de la mondialisation économique. Est-elle irréversible ? Ou bien connaîtra-t-elle un coup d'arrêt, voire un coup d'arrêt brutal, comme ce fut le cas pour la première mondialisation, lorsque, vers les années 1890, elle a cessé de susciter un soutien majoritaire, et ce, simultanément dans beaucoup de pays. Angleterre, pionnier et grand bénéficiaire de cette première mondialisation, y compris. Sera-t-elle une mondialisation heureuse, comme le disent ses turiféraires, ou sera-t-elle le cauchemar que nous dépeignent ses adversaires ? Un tableau complet qui soulignerait d'une part ce que la théorie économique d'un côté et l'histoire économique d'un autre côté permettent de dire et ce qu'elles ne permettent pas de dire, devrait jouer de toutes les nuances de couleurs entre le rose et le noir, et faire dans le gris très souvent. Sa présentation suffirait largement à nourrir cette conférence et solliciterait plus directement mes compétences, mais malgré tout ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de réfléchir sur la manière dont nous répondons aujourd'hui aux tensions que la dissociation entre, d'une part, l'espace du marché, un espace qui est mondial, et l'espace de l'État, qui reste le plus souvent l'espace de l'État-nation, donc la tension que cette dissociation a créée, crée ou va créer. Autre remarque liminaire, les frontières du marché n'ont bien entendu jamais coïncidé exactement avec les frontières de l'État. Dans la France du XVIIe siècle, c'est l'État qui tire largement le marché. Le commerce des blés, qu'étudie par exemple l'abbé Galiani, en texte classique, doit s'étendre pour que les villes soient ravitaillées et que les aléas régionaux des récoltes soient lissés. Et l'État s'efforce de faire qu'il en soit ainsi. Et aujourd'hui encore, la polarisation nationale des échanges semble rester forte. Exemple classique, il y a, je crois, 10 fois plus d'échanges entre 2 provinces canadiennes qu'entre l'une de ces provinces et un État américain situé à la même distance. Mais la situation est beaucoup plus instable, car soumise à une pression concurrentielle plus vive. Évidemment, inutile d'ajouter que les entreprises multinationales ont des stratégies sans frontières. Cette remarque liminaire faite, il est traditionnel de distinguer 3 axes à l'action économique d'un gouvernement. Alors, c'est une classification due à un économiste américain, Richard Musgrave, qui est décédé récemment. La stabilisation, l'allocation et la distribution ou la redistribution. La stabilisation désigne le champ de l'action, alors que c'est plutôt dans le court terme, mais il s'agit plutôt de l'échelon global. Donc le champ de l'action qui vise à régulariser la marche de l'économie. Sous le vocable allocation, on désigne le plus souvent le secteur des politiques qui influence la production de biens et services, qu'ils soient marchands ou non marchands. Et la distribution ou la redistribution évoque des activités dont je crois la nature est clairement indiquée par le vocabulaire. Alors, je vais revenir sur ces trois catégories pour évoquer les effets de la mondialisation dans chacun de ces domaines. La stabilisation, d'abord. Un gouvernement national qui agit dans le cadre d'un marché mondial, dont les évolutions pèsent de plus en plus lourdement sur son activité économique intérieure, n'a qu'une marge de manœuvre limitée pour agir sur la conjoncture. Il est plus dépendant de ses voisins, profite de leur bonne fortune et pâtit de leurs difficultés, et redoute la contagion des crises financières qui peuvent les affecter. Donc les politiques conjoncturelles ne seront efficaces, en admettant qu'elles puissent l'être, que si elles sont coordonnées entre États qui sont des partenaires économiques voisins. L'allocation des ressources. L'État-nation conserve en principe la maîtrise d'une certaine organisation de la production sur son territoire, sauf si, comme c'est le cas en Europe, il l'a soumise par traité à des règles communes d'organisation de la concurrence qui limitent ses marges de manœuvre. Il est responsable de la production des biens collectifs, biens publics, dont on parlera longuement demain, mais à côté des biens collectifs dont la juridiction reste tout ou en partie nationale, apparaissent des biens collectifs, on en parlera demain à nouveau, globaux, dont la gestion et la production intéressent toute la planète. Leur distribution, enfin, l'État-nation reste, pour des raisons profondes sur lesquelles je reviendrai, l'espace légitime de leur distribution. La mondialisation a pour l'instant peu entamé cette légitimité, mais elle a pu affecter la capacité de redistribution tout en accentuant le besoin. C'est un point sur lequel je reviendrai avant de conclure. Dans ces deux premiers registres, stabilisation et allocation, les difficultés de l'État-nation et l'absence sur nos écrans radars, un avenir prévisible de gouvernement mondial, conduisent à s'en remettre à des formes de coopération internationale, respectueuses d'une souveraineté dont les États se dessaisissent volontairement, partiellement et contractuellement. C'est ce que Pascal Lamy appelait ce matin le modèle westphalien. Ces coopérations se cristallisent modèle westphalien qui a pu plus ou moins dériver et se modifier. Ces coopérations se cristallisent soit autour d'organisations internationales dotées de plus ou moins de moyens d'intervention, Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, soit autour de traités ou protocoles, et donc le dernier en date, le plus emblématique, est le protocole de Kyoto. On peut dire que ces institutions ou traités sont comme des sortes de prothèses de membres d'un corps qui n'existe pas, qui c'est le gouvernement mondial. Les formes de coopération spécialisées et multilatérales qu'elles déterminent sont diverses. D'abord, elles peuvent soit viser à organiser, réguler, voire développer le marché mondial. Entre dans cette rubrique l'Organisation mondiale du commerce, dont on a beaucoup parlé ce matin, dont la mission est d'étendre le commerce, et qui a pris le relais des General Agreements on Trade and Tariffs, le fameux GATT, qui ont été une machine extrêmement efficace de démantèlement des protections douanières, en particulier dans le monde développé. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, peut être vue comme une sorte de pendant social de l'OMC qui veillerait à ce que les droits du travail ne soient pas trop asymétriques, avec les difficultés que Pascal Lamy a soulignées ce matin. Dans la même rubrique, le Fonds monétaire international a pour mission, c'est mission essentielle, de stabiliser l'environnement du marché mondial. Il cherche à prévenir les crises, comme les crises de change, ou quand elles éclatent, à limiter les effets de contagion. Cette première catégorie de fonctions, le développement ou la régulation du marché mondial, vient s'ajouter une seconde catégorie qui renvoie à ce qu'on appellerait au niveau national la production de biens collectifs qui sont globaux ou mondiaux. Première remarque, ces biens collectifs ne sont pas nécessairement liés à la mondialisation des échanges. La santé, que met en avant le sigle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est une préoccupation aussi vieille que l'humanité. Et elle est aussi depuis longtemps un bien collectif global, puisque la propension des microbes à franchir sans contrôle les frontières est bien antérieure à notre mondialisation économique, même si la rapidité, l'intensité moderne des déplacements fait parfois ressurgir le risque de transmission fulgurante des épidémies, risque qui a longtemps terrorisé les peuples. Autre bien collectif global, peut-être l'archétype du bien collectif global, la qualité du climat, qui est menacée aujourd'hui non par la multiplication des échanges de biens entre pays, mais par le recours universel à des technologies fondées sur l'utilisation des carburants fossiles. Alors le protocole de Kyoto, qui s'efforce d'organiser la coopération internationale face à la menace, coordonne pour les amplifier les efforts nationaux. Alors il s'efforce d'affronter le marché mondialisé sur son propre terrain en créant un marché international des droits d'émission, qui est une innovation majeure et significative de notre ère de la mondialisation, Alors, le protocole de Kyoto n'est que l'exemple le plus célèbre parmi plusieurs centaines d'accords multilatéraux sur l'environnement appelés à combattre les pollutions transfrontières. Parmi eux, vous connaissez sans doute l'accord de Montréal sur la protection de la couche d'ozone, qui est l'exemple d'une coopération internationale dont le succès a été spectaculaire et, espérons-le, durable. Verra-t-on naître une agence mondiale pour l'environnement, dont on parle de façon insistante depuis plusieurs années ? Quoi qu'il en soit, même si je ne prétends que fournir un échantillon de ce qu'on appelle les institutions de la gouvernance mondiale, je ne voudrais pas clore la liste sans évoquer la Banque mondiale, dont l'ancien chief economist François Bourguignon nous parlera demain. Une institution que je connais parce que, aussi bien François que Nick Stern ou Joseph Stiglitz ont été des collègues et qui ont été les précédents économistes en chef de la Banque mondiale, ont été des collègues proches. Alors la Banque mondiale est importante par les fonds qu'elle gère et par le rôle qu'elle joue dans l'aide au développement. François Bourguignon vous dira sans doute les problèmes auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Et elle reste une des institutions emblématiques de cette gouvernance mondiale en devenir. Alors, les institutions que je viens d'évoquer sont diverses par les missions. J'ai essayé de les regrouper, alors mais sans un succès absolument total, en deux grandes catégories, hein, la régulation et le développement du marché, d'une part, et la production de biens collectifs globaux, d'autre part. Mais on aurait pu les regrouper aussi par leur origine. Certaines, comme le FMI ou la Banque mondiale, sont issus du système de Bretton Woods. D'autres ont été créés sous l'égide de l'ONU. J'aurais pu aussi les classer en référence au système de contrôle auquel elles sont soumises. Chaque membre ou chaque pays membre, mais il y a des membres qui ne sont pas des pays, j'ai appris ce matin, a une voix à l'Organisation mondiale du commerce. Quand les participations au conseil d'administration du FMI sont liées aux parts dans le financement. J'aurais pu aussi les classer par le volume des fonds qu'elles gèrent ou les moyens d'action dont elles disposent et évoquer, mais ça a déjà été fait ce matin, l'organisme de règlement des différends de l'OMC qui intervient dans les litiges commerciaux entre les pays et qui est une instance judiciaire. Alors comment juger des mérites de la gouvernance ainsi mise en place et dans quel sens la faire évoluer ? Alors, première observation, je vais dire un certain nombre de choses qui ne sont pas nouvelles. Hein. Les organismes mis en place sont des institutions spécialisées dont les missions ne sont pas strictement circonscrites et peuvent donner lieu à recouvrement. Par exemple, on a vu souvent dans le passé des exemples de conflits récurrents. Le FMI est fondé à conditionner son intervention à un contrôle de la politique conjoncturelle des États en difficulté, mais la fragilité financière peut elle-même être une caractéristique structurelle du système bancaire ou de l'économie, où doit s'arrêter son action. De fait, on a vu souvent FMI et Banque mondiale intervenir de façon parfois opposée à la marge de leur domaine, l'un débordant sur le structurel, l'autre sur le conjoncturel. Alors, les conflits entre environnement et commerce sont récurrents, la défense de l'environnement étant souvent suspectée, le plus souvent suspectée du côté de l'OMC, de cacher une mesure protectionniste. Donc, organismes spécialisés, les institutions de la gouvernance mondiale sont plus difficiles à coordonner, semble-t-il, voire nettement plus difficiles, que les administrations spécialisées d'un État-nation. Elles sont aussi, et c'est la deuxième observation, beaucoup plus difficiles à contrôler. Alors, je vais examiner cette critique de plus près. L'absence de contrôle démocratique est une des objections les plus couramment faites, par exemple par les altermondialistes, à certaines organisations qui, de leur côté, souvent se drapent dans la posture des servants de l'intérêt public offensé. À tort. L'Organisation mondiale du commerce, par exemple, ne défend pas l'intérêt public, mais une conception de l'intérêt public, celle qui résulte d'une certaine compréhension des bénéfices de l'extension des échanges, une conception fort honorable, mais discutable. La mission de l'OMC est donc contestable. Les altermondialistes ont le droit de la contester. Mais ils ont tort de le nier. Elle a bien été décidée d'une manière qu'il faut appeler démocratique, autant que faire se peut dans le monde où nous vivons, c'est-à-dire par les États souverains, se déterminant dans le cadre de processus démocratiques qui les organisent. De même, le FMI est contrôlé par un conseil qui décide à partir d'un vote pondéré, selon des clés déterminées par traité et qui fait intervenir donc les États membres dans ce dispositif. Et à vrai dire, ce conseil se détermine souvent par consensus. Rejeter en s'en tenant au registre formel la critique altermondialiste est cependant superficielle. Pour des raisons qui méritent au moins qu'on y réfléchisse, le contrôle formel n'est pas le contrôle réel. Et nos institutions multilatérales de la gouvernance jouissent d'une forme d'autonomie ou d'un degré d'autonomie qui dépasse largement celle des administrations publiques des États-nations. La raison est sans doute simple. Une d'entre elles est que le contrôle est un bien collectif, alors local en l'occurrence, ou global par ses effets, et que la production de ce bien collectif, comme le serait celle d'un bien collectif financé par souscription, est trop faible. On observera soit une restriction du cercle du contrôle effectif, de même que les petits actionnaires d'une entreprise ont tendance à s'en remettre pour la surveillance à un actionnaire dominant, nombre de pays actionnaires de ces organisations internationales se sentent peu concernés par le contrôle. La gouvernance sera alors biaisée. Il pourra aussi en résulter, lorsque les actionnaires dominants investissent insuffisamment dans le contrôle, un accroissement de l'autonomie réelle et non plus formelle. Il y a un point que je voudrais évoquer et qui fait un point de sociologie, donc je m'aventure en dehors de mon domaine, mais qui résulte de mon expérience et que je soumets à votre critique et que je soumets à la discussion, c'est comment l'accroissement de l'autonomie réelle des institutions internationales s'appuie souvent sur une quête réussie d'autonomie intellectuelle. Et je voudrais parler un peu d'un phénomène que j'ai, sur lequel je connais peu d'analyse, mais que j'ai rencontré beaucoup de fois, que j'appellerais celui de l'existence des intellectuels amis. La mission originelle d'un organisme, même lorsqu'elle est claire dans son principe, par exemple la lutte contre l'instabilité financière dans le cas du FMI, est loin d'être facile à concrétiser. Cette concrétisation exige la construction d'une doctrine pour laquelle il faut évidemment solliciter des spécialistes. Et on observe souvent une synergie entre les intérêts, je dirais matériel de l'organisation, hein, qui vise quand même normalement à asseoir son influence, à l'accroître, et les intérêts intellectuels des experts consultés, et avec un phénomène d'autosélection qui préside à leur recrutement. Et je crois que l'histoire du FMI fournit un exemple que je trouve personnellement édifiant. Ce que l'on a appelé le consensus de Washington est une doctrine intellectuelle qui, dans les années 80, a fortement inspiré les actions du FMI et qui mettait l'accent sur le triplé libéralisation, privatisation, ouverture. Alors, le label Consensus de Washington ne renvoyait pas une intervention du gouvernement américain, même si les États-Unis, en tant qu'actionnaire principal, voyaient sans doute cette doctrine d'un bon œil, mais au fait qu'elle émanait d'un petit groupe d'économistes proches par leur sujet du fonds, mais qui s'est constitué en club de pensée devenu homogène, l'homogénéité traduisant sans doute la logique d'adhésion-exclusion qui construit les groupes intellectuels. Alors, sans juger au fond de la valeur intellectuelle de cette doctrine, de sa valeur opérationnelle, ça pourrait nous amener à des discussions assez longues, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'elle ne reflétait pas, contrairement à ce qu'il semblait, un consensus des économistes. Alors, on l'a bien vu lorsque Joseph Stiglitz, qui connaissait au moins aussi bien la théorie économique de son temps que la plupart des adeptes du consensus de Washington, l'a vilipendé. Mais ça ne reflétait même pas un consensus au sein des spécialistes du domaine. Elle exprimait l'influence qu'un groupe, à la fois savant et militant, peut avoir sur la gouvernance. Dans des secteurs spécialisés, où les institutions mandataires sont soumises à un contrôle parfois distant ou particulier de leur mandant, leur stratégie doit s'appuyer sur des doctrines intellectuelles dont elles doivent favoriser l'émergence, mais dont elles peuvent aussi partiellement contrôler le contenu en favorisant le rassemblement de ce que j'ai appelé les intellectuels amis. J'ai pris l'exemple du FMI, qui est particulièrement propice à mettre en exergue le point que je voulais illustrer, mais il est évidemment aucunement isolé. Si je quitte le monde pour l'Europe et Washington pour Bruxelles, la montée en puissance de la Direction générale de la concurrence au sein des directions de l'Union européenne m'aurait permis d'illustrer les synergies qui existent entre les doctrines et l'accroissement du pouvoir. Donc l'influence des réseaux à la fois savants et militants se détermine évidemment aussi dans la détermination des politiques des États-nations, mais pour des raisons sur lesquelles il faudra plus réfléchir, semble plus faible, sans doute parce que l'autonomie des administrations des États-nations est plus faible. C'est en tout cas la conjecture que je voulais vous soumettre. Alors le rôle que joue dans la gouvernance mondiale ce qu'on peut appeler les internationales de savants militants est aussi illustré dans un autre contexte où il sera a priori plus applaudi, celui de la genèse du protocole de Kyoto. C'est bien l'alerte, acte militant des scientifiques, les savants, qui a mis en branle et qui continue à aiguillonner l'action internationale. Donc il y a bien là un phénomène de notre temps qu'il faut prendre en compte et qui n'appelle a priori bien sûr aucune réprobation, mais qui appelle malgré tout réflexion. Reste malgré tout que l'autonomie des institutions présentes, ou plus encore à venir, institutions de la gouvernance mondiale dont j'ai brossé un tableau rapide tout à l'heure, pose problème. Est-elle excessive? Est-elle insuffisante? Alors je voudrais noter que cette question est trop générale. Le degré d'autonomie souhaitable d'une organisation par rapport au pouvoir politique, Pierre en parlait ce matin, par rapport au pouvoir politique d'origine démocratique, n'est pas, au sein même d'un État-nation, invariable. Alors on peut arguer, par exemple, comme l'ont fait mes collègues Eric Maskin, qui a été récompensé par un prix prestigieux récemment, et Jean Tirole, que le degré d'autonomie d'une institution, étatique, para-étatique, doit s'accroître avec la technicité du sujet, mais aussi lorsqu'il y a des risques croissants d'arbitraire, du pouvoir de la majorité sur la minorité. Donc il n'y a pas de réponse uniforme au problème que je pose. Il n'en reste pas moins que deux positions s'affrontent. Certains pensent que l'autonomie des institutions de la gouvernance mondiale est excessive et que par les mécanismes qu'on a évoqués, elle confisque un pouvoir hors de la sphère démocratique. Alors, je sais bien que Pascal Lamy nous a dit ce matin qu'elle deviendrait plus démocratique, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement par quel processus, donc je ne vais pas modifier mon exposé sur ce point. D'autres, au contraire, préconisent de renforcer leur indépendance. Alors, comme l'a dit Pierre Rosanvallon, le renforcement de l'indépendance des autorités administratives est dans l'air du temps. Partout en Europe, les secteurs ouverts à la concurrence par le progrès technique, les télécommunications par exemple, sont coiffés par des autorités administratives indépendantes et non par un département ministériel qui, autrefois, exerçait souvent les attributions d'actionnaire unique ou bien dominant de l'entreprise en situation de monopole. Je pense à France Télécom et à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, qui se substitue au ministère de l'Industrie, qui coiffait France Télécom. Même si ces autorités exercent leurs fonctions dans le cadre de textes législatifs contraignants, elles échappent à la tutelle directe qui, bien souvent, auparavant, s'exerçait sur l'activité du secteur. Bien entendu, ces délégations ne vont pas à l'encontre d'une conception éclairée du contrôle démocratique, dès lors qu'elles répondent aux préoccupations dont j'ai fait état. Il n'en reste pas moins qu'au niveau national comme au niveau de la coopération internationale, que l'extension souhaitable de ces délégations, que le degré d'indépendance à leur accorder, oppose non seulement, je dirais, des conceptions techniques portant sur la logique de la mission, mais aussi sans doute des conceptions politiques opposées sur la confiance accordée aux mécanismes démocratiques. Je crois que d'un côté, on a la tradition libérale qui met en avant la défense des libertés, hein, les libertés civiques, mais aussi la liberté économique qui est mise sur un plan similaire, et qui exprime malgré tout une défiance vis-à-vis de toute une série d'interventions de l'État. D'autre part, la tradition social-démocrate mettait, dois-je dire, continue à mettre toute sa confiance dans un certain nombre d'institutions jugées suspectes par la première tradition. Alors, je ne prétends pas conclure à partir de ce bref état des lieux des institutions de la gouvernance, mais simplement indiquer que la discussion sur la délimitation de leur mission, la forme de leur contrôle et le degré de leur indépendance n'est pas seulement technique. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que ces institutions sont des substituts très imparfaits de ce que pourraient être les administrations d'un gouvernement mondial. J'ai dit les difficultés accrues de coordination et de contrôle, on pourra en discuter. Mais il y a évidemment en amont une difficulté plus redoutable, qui d'ailleurs a été également abordée par Pascal Lamy ce matin. Une des tâches essentielles d'un gouvernement national est, ce que je dirais entre guillemets, de globaliser les compromis. C'est-à-dire de fournir à ses mandants, qui sont les électeurs, un menu complet d'interventions, dont l'acceptabilité vient de l'agrégation de mesures sectorielles, les unes profitant aux uns et les autres aux autres. C'est ce que les anglo-saxons appellent le « log rolling », un terme dont je ne suis pas sûr d'avoir une traduction exacte. L'échange de vote serait quand même un peu péjoratif. Mais cette fonction de « log rolling », de globalisation des compromis, est essentielle. Évidemment, n'est pas assurée dans les cadres actuels de la gouvernance mondiale, si ce n'est peut-être de façon limitée dans des instances comme l'ONU ou le G7 ou G8 ou G9. Pourtant, le besoin est et va devenir de plus en plus criant. Je me demande par exemple comment mettre en place une politique ambitieuse de lutte contre l'effet de serre, à laquelle les pays de la planète sont diversement intéressés, sans en faire une partie d'un compromis plus global, liant commerce, environnement et développement, et qui permettrait de troquer les avantages sur chacun de ces registres. Cette évocation du développement et donc des inégalités de richesse sur la planète me ramène au troisième et dernier chapitre de la responsabilité de l'État selon Musgrave, le chapitre de la redistribution. Alors, je l'évoquerai un petit peu en guise de conclusion, parce que je ne traiterai pas à fond, mais je voudrais souligner les contradictions auxquelles fait face l'État-nation, qui n'est plus l'espace fonctionnel de la redistribution, ce sera mon premier point, mais qui reste l'espace légitime et effectif. L'espace fonctionnel de la redistribution est évidemment l'espace du marché tout entier. Et c'est bien sûr particulièrement vrai si l'on pense à la dernière question que j'ai évoquée, la redistribution entre les nations à un échelon global, dans un monde où l'inégalité entre les personnes qui y vivent est extrême. Alors, pourquoi pas de gouvernement mondial ? Ben, la réponse, je crois, c'est que l'espace légitime de la citoyenneté ne se décrète pas. Il est le produit du travail de l'histoire, et une histoire qui s'enracine dans des proximités géographiques, qui fonde la solidarité au sein des générations et entre générations, qui se concrétise dans des valeurs partagées et qui se décline en une culture et une culture politique commune. Habermas a, je pense, analysé ce problème de façon convaincante. J'ai l'habitude de citer quelques phrases qui me semblent caractéristiques de sa pensée. L'idée qu'elle se veut démocratique, une communauté politique doit être à même de distinguer ceux qui en sont membres et ceux qui ne le sont pas. Si les citoyens du monde s'organisaient au niveau mondial et allaient à instituer une représentation démocratique élue, ils ne pourraient pas tirer leur adhésion normative de la conception éthico-politique de leur identité, mais seulement d'une conception juridico-morale. Et, ajoute-t-il, ce n'est pas par hasard si les seuls droits de l'homme, autrement dit les normes juridiques dont le contenu est exclusivement moral, constituent le cadre normatif de la société cosmopolite. Alors, je m'écarte un petit peu de mon sujet, mais ceci fait écho à la logique, à la légitimité de l'État-nation comme espace de la redistribution. Alors, on pourrait malgré tout penser que l'État-nation reste l'espace fonctionnel de la redistribution si je prends le mot dans une acception plus limitée. Par exemple, la théorie du commerce international, la théorie standard, que j'enseigne parfois, que je vais enseigner cette année au collège, suggère qu'un accroissement du commerce, par exemple un accord au sein de l'OMC, ne fait que des gagnants parmi les nations, et que donc le problème de compensation des gagnants et des perdants de la mondialisation est un problème interne aux pays participants. Alors, malheureusement, la conclusion n'emporte plus la conviction. D'une part parce qu'elle surestime, et peut-être assez considérablement, les performances des systèmes de redistribution interne, et d'autre part parce qu'elle n'est plus théoriquement valide dans un monde où les facteurs ne sont plus immobiles, c'est-à-dire sous des conditions qui sont très loin d'être remplies dans notre monde où le capital financier se déplace sans contrainte. Donc la fonction utile de compensation des perdants, pour ne pas parler du problème plus criant de l'aide à la pauvreté, risque donc d'être imparfaitement et plus imparfaitement assumé aujourd'hui. L'État-nation, espace légitime de la citoyenneté, espace légitime de la redistribution, du moins je l'ai suggéré, en est en tout cas l'espace effectif. Les États-nations dans l'Europe d'aujourd'hui redistribuent au moins 30% du revenu national, un pourcentage évidemment qui dépend évidemment d'une définition plus précise des opérations. Par contre, les pays riches consacrent moins de 1% de leurs produits à l'aide aux pays en développement et les transferts interpays dans l'Union européenne sont d'un ordre de grandeur analogue. Pourtant, même donc en ignorant les problèmes plus profonds de justice de l'organisation internationale, de la misère du monde, des transferts entre nations, l'État-nation n'est sans doute plus l'espace fonctionnel de la redistribution. Donc, j'ai rappelé que les soubresauts du marché mondial, pour être mutuellement avantageux, appelleraient, ou risquent d'appeler, des transferts de richesses entre États, aujourd'hui utopiques. À cela, il faut ajouter, et c'est plus inquiétant, que la mondialisation affecte le coût de la redistribution interne, ou si l'on veut l'efficacité des systèmes de redistribution, efficacité menacée, parfois gravement menacée, par la concurrence fiscale dans des espaces où le capital et le travail, et surtout le travail le plus qualifié, sont mobiles. L'État-nation de plus en plus malmenée n'est-il pas pour autant en même temps de plus en plus utile, non pas nécessairement pour entretenir de gros bataillons et assurer des tâches dont la dévolution est historique plus que fonctionnelle, mais pour mettre en place un système de redistribution et d'assurance sociale dont la mondialisation va exacerber le besoin. Voilà, je voulais terminer et conclure en soulignant cette autre dimension de notre besoin de gouvernance. Merci.